L'œuf. Le projet était apparu sur le net. Il n'y avait pas vraiment d'auteur puisque le document avait été glissé dans un forum de discussion consacré à l'astrophysique. Par curiosité, les familiers de la toile cherchèrent à identifier l'émetteur. Mais ces recherches s'arrêtèrent à un cybercafé d'un quartier de Londres. Le texte illustré avait donc pu être mis sur le réseau par n'importe qui. Il amusa beaucoup les spécialistes des modèles réduits. En effet, toute proportion gardée, cela ressemblait au projet Apollo à l'échelle 1/15. Il y avait pas mal de croquis techniques, les espérants fusées avouèrent que ceci témoignait d'une certaine maîtrise du sujet. Ce qui passionnait les gens, c'était le but poursuivi. Déposer sur la Lune un objet de la taille d'un œuf de poule. En dehors de ces croquis, il y avait des photographies montrant un certain nombre de personnes travaillant sur les différentes facettes du projet. Les propulseurs cryogéniques du premier étage avaient le diamètre de grosses casseroles, sans plus. On les voyait aux essais, dans un centre très années 50. Aucun nom ne les était cité. Mais certains crurent reconnaître des collègues partis de longue date à la retraite. Apparemment, les gestionnaires du projet devaient tous avoir plus de 65-70 ans. Ils avaient tous une chose en commun, un large sourire leur barrait la figure. Le texte disait que les recherches étaient maintenant arrivées à maturité et que l'équipe allait bientôt pouvoir passer à l'action. L'accent a été sans cesse mis sur les progrès réalisés en matière de miniaturisation. Nous avions effectivement été habitués à voir les engins spatiaux devenir de plus en plus petits. On se souvient de ce robot qu'on envoya explorer Mars et qui était de la taille d'un plateau pour servir le whisky. On le voyait affronter d'énormes rochers dont le plus important ne devait pas dépasser la taille du poing. Il cahotait sur le moindre gravillon. Effectivement, quand on voit ce qu'on a pu faire sur Mars, on serait en droit de se demander pourquoi la NASA n'a pas repris ses explorations lunaires de cette façon. On se souvient de l'engin russe Lunokhod, une sorte de grosse lessiveuse d'1,80 m de diamètre montée sur chenille. Le couvercle pouvait basculer en dirigeant un tapis de capteurs solaires destiné à recharger les batteries. L'intérêt d'un robot lunaire est qu'il peut être piloté manuellement à partir d'une simple console. En effet, la Lune n'est qu'à, en gros, une seconde lumière de la Terre. Ainsi, à condition de ne pas rouler comme un malade, on peut facilement conduire un équipage sur le sol sélène à la vitesse d'un type qui roule en vélo. Le double retard lié à la transmission de l'image et à l'acheminement d'ordre de conduite est suffisamment faible pour que la chose soit gérable. Par contre, conduire un robot sur Mars à la main est pratiquement impossible. La Terre est à 8 minutes lumière du Soleil. Les temps d'acheminement des images à l'attention d'un éventuel conducteur et le temps de transport des ordres de conduite vers un objet posé sur Mars sont pratiquement du même ordre de grandeur. Avec le robot martien, tout ce qu'on peut faire, c'est examiner une image soigneusement, puis donner un ordre de progression, ainsi de suite. Sur la Lune, par contre, c'est royal. On ne comprend donc absolument pas pourquoi les Terriens, après avoir abandonné les missions lunaires 30 ans plus tôt, ne les ont pas complétées avec des explorations menées cette fois par une armée de robots. Ceux-ci pourraient faire des analyses in situ très complexes, ramener éventuellement des échantillons vers des stations, ou ces analyses pourraient être complétées. Un robot peut effectuer des forages, il serait tout à fait possible de réexpédier vers la Terre des échantillons prélevés en surface ou en profondeur. Décidément, l'absence d'un tel projet, a priori d'un coût modeste, et qui pourrait s'avérer très profitable au plan scientifique, a quelque chose de parfaitement incompréhensible. L'équipe, qui avait apparemment décidé de reprendre l'exploration lunaire pour son propre compte, avec un financement privé, apprenait-on, avait peut-être décidé de se substituer à une administration défaillante, à moins qu'elle ne se soit décidée à briser quelque interdit. Les messages se succédèrent, toujours expédiés à partir de cybercafés, situés à chaque fois dans des villes différentes. Les membres de l'équipe disaient qu'ils avaient constitué un réseau assez vaste et bénéficiaient de nombreuses complicités dans des laboratoires déjà existants. Nous eûmes aussi droit à quelques films réalisés de toute évidence par des amateurs. Dans l'un d'eux, on voyait un robot de la taille d'un jouet explorer le green d'un terrain de golf et aller récupérer une balle dans un des trous. À la fin de la séquence, l'engin, visiblement victime d'une faute de pilotage, finissait par tomber dans une piscine. On voyait alors apparaître très brièvement sur l'image le visage de son concepteur, Hilar, porteur d'un chapeau de pêcheur de truites. Certains crurent reconnaître Harold Stassi, un des pionniers de l'intelligence artificielle, à la retraite depuis une bonne douzaine d'années. Un beau jour, un message tomba. Le lancement, effectué depuis une barge d'une taille assez modeste, avait, nous dit-on, été réussi. Le premier et le deuxième étage s'étaient correctement séparés, avaient brûlé en retombant dans l'atmosphère. Bien sûr, étant donné la taille très modeste de tels engins, ces événements étaient passés totalement inaperçus. Le document montrait néanmoins un film de quelques secondes où on voyait ce mini-train spatial fonçant à bonne vitesse entre les nuages. C'était maintenant le module de service qui était en route vers la Lune pour une croisière de 4 jours. Tout le monde crut, bien entendu, à une vaste blague. Il était en outre hors de question d'apercevoir sur un quelconque télescope un engin aussi petit, baptisé la poule par ses concepteurs. Une poule qui allait pondre un œuf sur la surface lunaire. Les documents, diffusés depuis de nombreux mois, montraient ce singulier équipage spatial d'à peine plus d'un mètre de long, ayant le diamètre d'un seau de plage. La technique d'alunissage s'inspirait des techniques mises en œuvre pour déposer les mini-robots sur Mars. Après un freinage minimal, un ballon amortisseur était déployé. L'engin prenait alors contact avec le sol, puis rebondissait un certain nombre de fois avant de s'immobiliser. Un des membres de l'équipe avait créé un film assez pro, montant toute cette affaire en images de synthèse. Mais cela ressemblait plus à une publicité pour une marque de chewing-gum qu'à une réelle expérience scientifique, étant donné l'échelle. Un nouveau message arriva qui commençait par « Un petit geste pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité, l'œuf a été pondu. » On se rappelle qu'un des astronautes américains s'était rendu célèbre en emmenant sur la Lune un club de golf et en réalisant le plus long coup fait par un humain. Une balle de golf traîne donc quelque part sur le sol lunaire. Mais quel intérêt cela pouvait-il présenter de mettre sur le sol de notre satellite un objet de la taille d'un œuf de poule ? Les humains n'allaient pas tarder à le savoir. Le réseau donna les coordonnées du point d'alunissage, le centre du cratère Alphonse. Les gens écrivirent à la NASA en demandant que le télescope Hubble soit pointé dans cette direction, mais les responsables répondirent que primo, cet appareil n'avait pas été conçu pour cela, et secondo, qu'ils avaient bien d'autres choses à faire que de s'occuper de telles âneries. C'est alors qu'un nouveau message annonça que l'œuf commencerait à émettre le 6 février prochain, entre 23h, heure de Greenwich, et minuit. Le texte demandait aux astronomes de surveiller cette région du cratère Alphonse. À l'époque, cette partie du sol lunaire était dans l'obscurité. Quelques astronomes amateurs effectuèrent un suivi de routine. Le développement des clichés, ou l'analyse des données CCD, révéla l'existence d'un point brillant. Ceux qui disposaient de moyens informatiques purent même situer exactement l'événement dans le temps. L'émission aurait eu lieu donc à 23h17 exactement, un flash de brève durée, semblable à ce que délivrent les systèmes à éclat des balises. De très rares journaux se firent l'écho de l'événement, en général sur le ton de la dérision. Un seul évoqua le phénomène en première page en titrant « Il y a une poule sur la Lune ». Le cliché ayant été fourni par un astronome amateur, des professionnels furent consultés. Certains d'entre eux s'étendirent sur l'éventuelle défectuosité des cellules CCD vendues dans le commerce. D'autres, plus incisifs, avancèrent même la thèse d'une mystification. Selon eux, les gens qui avaient mis en circulation ce faux cliché étaient les mêmes que ceux qui avaient présenté au fil des mois précédents cette ridicule conquête spatiale en modèle réussi. À travers un nouveau message, toujours injecté sur le web à partir de cybercafé, situé à Sydney cette fois, l'équipe des farceurs annonça que l'émission allait reprendre 28 jours plus tard. Cette fois-ci, de très nombreux astronomes amateurs se prirent au jeu. Mais saisir le phénomène devenait un peu plus difficile, étant donné que la fourchette temporelle s'était élargie. Selon les auteurs du message, un flash unique serait émis au même endroit pendant un laps de temps de plusieurs jours. Sans y croire plus que cela, certains mordus laissèrent leurs appareils braqués pendant toute la période indiquée, et, aux surprises, 6 clichés furent alors produits, fournis par des gens de pays très divers. la thèse de la mystification devenait délicate à soutenir, étant donné qu'il aurait fallu cette fois que celle-ci mette en jeu un réseau couvrant pratiquement la Terre entière. Les astronomes professionnels invoquèrent alors des phénomènes qui auraient été perçus il y a plusieurs décennies au cœur du cratère Alphonse, bien avant que l'homme n'ait mis le pied sur la Lune. On reparla d'un éventuel volcanisme lunaire. Ceci déclencha une vive polémique au sein de la communauté scientifique. On sait de longue date que la sismicité lunaire est pratiquement inexistante. On considère donc que le cœur de la Lune est froid, inerte. Dans ces conditions, comment un volcanisme aurait-il pu se manifester? Les choses en restèrent là pendant plusieurs semaines. L'attention des gens fut abondamment captée par un regain de tension au Moyen-Orient et par de nouvelles catastrophes naturelles, un tremblement de terre au Xinjiang, des incendies dévastateurs en Australie. On oublia l'œuf, le cratère, Alphonse et tout le reste. Mais l'objet se rappela brutalement à l'attention des hommes. Le professeur Carré, qui a toujours aimé l'excentricité, l'a de surveiller depuis des années les éventuels messages radio que le radiotélescope d'Arecibo aurait pu capter, avait installé un petit célestron braqué en permanence sur le cratère Alphonse. Quand le cratère était dans l'obscurité, le petit télescope envoyait automatiquement les images à un ordinateur qui procédait à son analyse. Les ordinateurs puissants, à Arecibo, ça n'était pas cela qui manquait. Celui-là comparait chaque pixel d'une image prise à l'instant T avec celle captée une milliseconde plus tôt. À la moindre variation d'éclat, il donnait l'alerte. Carré avait même carrément connecté l'appareil à la sirène destinée à signaler un incendie. Et c'est ainsi qu'une nuit, tout le personnel du centre fut irrésolu par un sifflement assourdissant. Carré, entendant le signal, sauta dans sa buick en pyjama et fonça vers la salle de contrôle. Il trouva ses assistants et le personnel de maintenance. « Cet incendie, où est-il ? » criait un homme visiblement surexcité. Carré débrancha calmement la sirène. « Ça n'est rien, c'est un exercice. Vous pouvez aller vous recoucher, mon vieux, si vous voulez. » Il se précipitait vers sa console. « Alors, mon petit coco, qu'est-ce que tu as à me dire ?» Il y avait bien un signal à cet endroit précis. Quelque chose au centre du cratère Alphonse avait émis une suite de flashs, 7 au total. On les voyait parfaitement sur la courbe affichée. Carré passa alors en visuel et tous purent plonger au cœur du cratère, noyé dans l'obscurité, et observer le clignotement étrange qui avait été enregistré. Vous avez déjà vu un volcan qui émet des bips bien rythmés, vous? Mais qu'y avait-il derrière tout cela? Carré, ses assistants et les hommes de service regardèrent ce clignotement pendant de longues minutes. Soudain, l'un d'eux se mit à frapper de son doigt sur la table au même rythme que celui du signal lumineux. Cela donna ceci.
C'est ça! C'est ça, dit Carré, c'est Roger Rabbit!
Qui?
Oui, écoutez ce rythme.
Les assistants mirent leurs sourcils en accent circonflexe.
Vous entendez, dit Carré.
Oui, c'est un signal très organisé.
Je vous le dis, c'est comme ça que Roger Rabbit tape du pied dans le film.
Vous voulez dire que Roger Rabbit, enfin qu'un lapin sur la Lune.
Non, ne dites pas de conneries, c'est une image.
Mais je dis qu'il y a un truc là-haut dans ce cratère qui envoie des signaux intelligents. Le soir même, l'interview donnée par Carré était sur toutes les télés. On pouvait se moquer d'un astronome amateur, mais pas d'Alexandre Carré, membre éminent de la Société internationale d'astronomie, découvreur des premiers quasars doubles. Le général était nerveux.
Qui vous dit que ce ne sont pas les Chinois?
Général, les Chinois ont bien affirmé qu'ils avaient l'intention de relancer la conquête lunaire et d'y implanter une base, mais d'une part, ils sont loin d'en être capables, d'autre part, c'est pipeau.
Comment ça, pipeau?
Ils se foutent éperdument de la Lune, mon général. Le problème, c'est qu'ils sont à 12 000 kilomètres de chez nous. Pour pouvoir un jour nous balancer des bombes sur la gueule, il leur faut des fusées encore plus puissantes que celles qu'avaient conçues les Russes dans les années 50. Plus puissantes que la Semyur 4 Korolev. Leur prétendue histoire de conquête lunaire, c'est une façon de camoufler tout cela. Et de toute façon, s'il y avait eu un tir à partir de la Chine, nos satellites infrarouges l'auraient détecté.
Mais alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce cratère, Alphonse ? Et qu'ont donné les observations faites avec Hubble ?
Rien.
Comment ça, rien ?
Général, si vraiment le truc qui émet est de la taille d'un œuf, il n'existe aucun télescope basé sur Terre ou dans l'espace qui soit capable de voir ce truc à 400 000 km de distance.
Vous croyez à cette histoire de mini-fusée ?
Nos gars ont passé au crible tout ce qui avait traîné sur le web depuis le début de cette affaire. Tous les détails techniques sont crédibles. C'est effectivement la fusée Apollo à l'échelle 1/15.
Et vous pensez que ce truc pourrait mettre quelque chose sur la Lune ?
Général, il se trouve que l'électronique s'est extraordinairement miniaturisée depuis 30 ans. Quand les gars pilotaient leur LEM et arrivaient sur la Lune, ils avaient un ordinateur de bord qui aujourd'hui ferait rigoler n'importe quel lycéen. On en était au tout début de la micro-informatique. Aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a les nanotechnologies, les micro-vannes, etc., etc. Mais il y a une autre donnée. L'ingénieur se tourna vers la carabine de projection. Dites-moi, s'il vous plaît, vous pouvez nous passer la vidéo, d'abord en vitesse normale, puis au ralenti. Les images défilèrent. La scène montrait les essais de ce qui ressemblait au premier étage de quadrituyère de la fusée Apollo à l'échelle 1/15, à proximité d'une sorte de garage. Et là, dit l'ingénieur, pouvez-vous revenir un peu en arrière ? Faites-nous un vue pour vous, par vue et montrez-nous les gars. Le projectionniste effectuait la manœuvre. Éclairé par la lumière émise par les tuyères, on voyait des types à l'arrière-plan avec des casques sur les oreilles pour se protéger du bruit. L'opérateur sélectionna la meilleure vue, puis effectua un grossissement. L'ingénieur bondit de son siège et alla vers l'écran.
« Vous voyez ce type-là, général ? C'est Wang Li. Il travaillait à l'Aerojet Corporation jusqu'à il y a 5 ans. Il nous a quittés, soi-disant, pour faire des recherches médicales. Or, ce type est un crack de la miniaturisation, et il est aujourd'hui introuvable. Et à côté de lui, c'est Weppstein. Mais Weppstein est à la retraite, il finit ses jours aux Bahamas. »
Non, général, introuvable lui aussi. Il a vendu sa villa, on ne sait même plus où il est passé.
Et alors, Weinstein était un des piliers du projet Apollo, vous le savez très bien.
Le général baissa le regard, semblant se concentrer. Je veux qu'on me piste tous les retraités qui ont travaillé sur ce fichu projet. À part ça, quelles sont les dernières nouvelles ? Roger Rabbit continue à émettre, on ne compte maintenant plus les stations d'observation qui ont l'œil sur lui. Toujours la même histoire, et la même depuis 2 mois, le tac, 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 tac. Et ça n'est pas un truc de chez nous ?
Général, on n'a rien sur la Lune. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ce truc hors service ?
C'est la première chose à laquelle nous avons pensé. Pour émettre ces impulsions, cet œuf a besoin d'énergie. Je pense que ces gars ont dû aller au plus simple. L'objet doit être relié à un panneau solaire d'une taille limitée, disons, 1 mètre carré peut-être. Ça lui permet de se charger quand il est face au soleil. Puis il vide son accu en émettant ses pulses. Il émet effectivement au plus tous les 28 jours, ce qui correspond à un mois lunaire. On alors effectue plusieurs tirs avec le laser ultraviolet qui est dans le centre de Sandia, au Nouveau-Mexique. C'est loin, mais même à cette distance, on devrait pouvoir mettre hors de service ces cellules photovoltaïques.
Et alors ?
Alors rien, la Terre tourne, mon général, l'œuf se recharge quand les capteurs reçoivent la lumière du soleil. Mais nous, on ne peut leur tirer dessus que quand on est face à la Lune. Or, nous supposons que les types qui ont fait cette connerie ont dû y penser. Les panneaux doivent se replier automatiquement quand nous sommes en position de tir.
Bien sûr, si ça a été conçu par un gars de chez nous.
Les journalistes faisaient le siège de la Maison Blanche et du Kremlin. Les responsables faisaient de leur mieux pour éluder ces questions. Mais les bruits des plus fous couraient. Le Times avait mis sur sa couverture un lapin tapant du pied sur la Lune. Des marchands de gadgets faisaient fortune en vendant des globes lunaires en plastique dotés d'une lumière clignotante pile sur le cratère Alphonse, dont le nom du coup était sur toutes les lèvres. Les membres d'une secte, persuadés qu'il s'agissait d'un message d'extraterrestre, avaient racheté un vieux projecteur de DCA et essayé de communiquer en renvoyant le même signal. Quand la lumière du projecteur frappait un nuage, on avait l'impression que Batman allait débouler d'un instant à l'autre. Tous les soirs, en s'endormant, les gars du Pentagone faisaient une prière en demandant que ce fichu truc cesse d'émettre. Il fallait que quelqu'un se mouille, se débrouille pour endosser l'affaire, mais il fallait aussi que ça reste américain, sinon cela signifierait que d'autres avaient la maîtrise de l'espace. De plus, personne ne s'intéressait aux quatre couillons qui étaient dans la station spatiale internationale, l'ISS. C'est la Rand Corporation qui finalement se dévoie. Des fuites furent orchestrées, laissant entendre qu'une mini-conquête spatiale avait débuté avec des engins de très petite taille et que ceci correspondait à un premier essai. La réponse de l'œuf arriva peu de temps après, dès que le cratère fut de nouveau dans l'ombre. Tita titit, titit, pit. C'est du morse ? Et ça dit quoi ? Voyons, une brève, une longue, deux brèves, ça c'est un L. Deux brèves c'est un I, une brève c'est un E. Ça veut dire L-I-E, lie, c'est-à-dire mensonge. Les porte-paroles de la ronde s'évanouirent dans la nature. Les fuites furent promptement colmatées. De toute évidence, les gars qui avaient mis ce bazar sur la Lune avaient aussi les moyens de lui parler depuis la Terre. Tous les radiotélescopes du monde entier furent désormais étroitement surveillés et des espions furent mêlés au personnel. La mesure sembla pendant un certain temps dissuasive. L'œuf cessa d'émettre pendant quelques mois. Tout s'oublie très vite sur Terre, même les choses les plus insolites. Si Moïse descendait d'un char de feu et repartait, même devant des milliers de personnes, l'événement finirait par se banaliser, et s'il n'avait aucune suite, finirait comme n'importe quel autre, classé au rang des hallucinations collectives. L'ingénieur entra dans le bureau du général. « Vous voulez un whisky ?»« Oui, mon général, c'est une bonne idée. »« Avec un glaçon ?»« Non, comme ça. Ne lésinez pas, mettez-moi une bonne dose. » « Je ne vous comprends pas, ça n'a pas l'air d'aller ces temps-ci. Vous vous baladez toujours avec cette blouse blanche. Vous devriez prendre un peu des vacances, mon vieux, aérez-vous un peu. Vous, les scientifiques, vous êtes toujours perpétuellement angoissés. Maintenant, on est tranquille. Roger Rabbit nous fout la paix. Il y a toujours une bonne idée pour dégonfler un truc et vous avez fini par la trouver. Nous vous en sommes d'ailleurs tous reconnaissants. » Faire dire aux gens de la Rande que les USA relançaient une mini-conquête spatiale n'avait pas été suffisant. Mais on avait fini par trouver une explication pour les messages de l'œuf. Il avait suffi de dire aux gens que la NASA avait placé au centre du cratère Alphonse un cataphote, capable de renvoyer un signal lumineux. On avait déjà fait ça lors de missions lunaires. Ça avait même permis de découvrir que la Lune s'éloignait de la Terre de 4 cm par an. Les mesures par effet Doppler ont une précision qui défie l'imagination. 10-10 cm par seconde, grâce à la possibilité d'éliminer le bruit en conjuguant de nombreuses mesures étalées dans le temps. N'était-ce pas ainsi qu'on avait mis en évidence la dérive des continents à l'aube de la conquête spatiale en collant un coup de laser sur le premier satellite venu ? Il avait suffi d'expliquer aux gens, en étalant cela dans toute la presse de vulgarisation, Scientific American en tête, que la NASA avait passé une sorte de miroir tout à fait analogue au cataphote des vélos au centre du cratère Alphonse. Pourquoi ? Simplement pour voir s'il n'y avait pas d'infime mouvement dans cette région de la Lune, signalant un risque de tectonique. Quant aux signaux, des farces de techniciens sans plus. Les scientifiques aiment bien les blagues, on le sait. Par ailleurs, comment empêcher un labo disposant d'un laser assez puissant de pointer vers cette région et de lui faire un maître des âneries ? On n'avait pas détecté les mouvements tectoniques recherchés. Le centre du cratère était aussi calme que tout le reste. Toute la Lune était calme d'ailleurs, et on n'avait plus grand-chose à espérer de ce caillou mort. Par contre, les réactions des terriens face à des messages venus du ciel avaient été fort intéressantes à étudier. Des tas de gens firent des PhD sur le sujet, il y eut des colloques, un grand Texan riant aux éclats avait même dit « Si nous avions voulu poursuivre l'expérience, nous aurions même pu créer une nouvelle religion. Cet œuf, c'était la voix de Dieu lui-même. On aurait trouvé des millions de mecs prêts à le croire. La salle était écroulé de rire. » De nouveau, la situation était under control. On pouvait continuer tout tranquillement à faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes. Le général se versa aussi un whisky. Vous savez, cette idée était excellente, qu'avec le temps, j'ai presque fini par y croire moi-même. Nous avons tellement embrouillé les pistes qu'une chatte n'arriverait même plus à y retrouver ses petits. Maintenant, ce truc peut émettre n'importe quoi, tout le monde s'en fout. Dans la mesure où les gens ont fini par se convaincre que les signaux vont être en fait de la Terre. Vous oubliez le dernier message, mon général, il y a 7 ans. L'annonce de passage d'une comète. Le dernier message. Grâce au ciel. J'espère que ce maudit œuf a été enfin détruit par une météorite. Il y a 7 ans que l'objet a de nouveau émis en morse un ultime message annonçant qu'une comète était en approche, ainsi que la date exacte de son passage au plus proche de la Terre, en juillet. Et ce truc a été effectivement détecté par un Japonais, autant que je sache, non ? Général, il y a un problème. Quel problème ? Les comètes ne deviennent visibles, ne sont détectables que lorsqu'elles sont à moins de 600 millions de kilomètres de la Terre, à 4 fois la distance Terre-Soleil, ce qui correspond aussi à la moitié du rayon de l'orbite de Jupiter. Alors, le rayonnement solaire est assez intense pour les faire dégazer, et on aperçoit la masse diffuse de gaz qui les entoure et qui réfléchit les rayons du Soleil.
Je ne savais pas, mais je suis ravi de l'apprendre.
Général, vous ne comprenez pas. Quand le message a été émis, et la date de passage au plus près de la Terre a été vérifiée avec la plus grande précision, l'objet était beaucoup plus loin. Bon, et alors qu'est-ce que ça change ? Général, à la distance à laquelle il se trouvait, aucun télescope basé sur Terre ou en orbite n'aurait été capable de déceler la présence de cette comète.